Dans le cadre de notre rendez-vous avec le CALACS Vallée de la Gatineau ce matin, avec Kathleen Godmer, bien sûr, on va poursuivre en quelque sorte une conversation qu'on avait amorcée lors de notre dernier rendez-vous. Salut Kathleen.
Allô.
On avait parlé de cette cause fort médiatisée, la cause de Gilbert Rozon, parce que là, ça se poursuit, ce procès, et les témoignages aussi. Et on parlait de ces dames qui ne sont pas crues lorsqu'elles livrent leurs témoignages ou qu'elles décident de déposer des accusations.
Bien, effectivement, bon, on avait abordé lors de la dernière chronique un petit peu les raisons pour lesquelles le témoignage avait été discrédité. Mais moi, j'avais envie d'entrer plus dans le sujet des conséquences et les réactions suite à l'agression sexuelle. T'sais, on ne se cachera pas que, comme je le répète souvent, ça reste du cas par cas. Chaque survivante réagit à sa manière. On ne peut pas prévoir non plus comment on va réagir suite à ça. Mais il y a quand même des choses qui reviennent d'une victime à l'autre, qu'on est capable d'identifier. Je trouve que c'est important de mentionner ça parce que les victimes, les survivantes, ont parfois tendance à se taper sur la tête en disant « Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi ça me fait ça? C'est pas normal. » Ça amène encore plus de culpabilité, plus de honte, plus de bon, ainsi de suite.
Que tu voulais continuer à nous parler de ça.
Bien, en effet, dans le fond, principale conséquence ou réaction, ça passe beaucoup au niveau psychologique. Donc, on va parler de traumatisme psychologique ou de syndrome du choc post-traumatique. Comme on disait dans la dernière chronique, ces chers avocats de la défense, eux, s'imaginent qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, ça disparaît, le post-traumatique, c'est réglé. Non, ça peut disparaître, mais ça peut réapparaître à n'importe quel moment. Il suffit d'avoir un élément déclencheur qui nous ramène à l'événement. Donc, c'est le principal sur le plan traumatisme psychologique. Mais aussi la dépression. Souvent, les victimes d'actes à caractère sexuel se rendent pas vraiment compte, mais la dépression s'installe petit à petit. Il y a un sentiment de tristesse, une perte d'intérêt, du désespoir, et c'est directement lié à ce qu'elles ont vécu. Mais c'est un petit peu insidieux, tu sais, on se rend pas compte que ça apparaît souvent suite à un événement, une agression comme ça. On essaie souvent aussi d'oublier, on tourne la page, on voudrait que tout revienne à la normale, donc on est peut-être moins attentive aux petits signaux que notre cerveau nous envoie ou que notre corps nous transmet. Dans la dépression, ça peut même aller jusqu'à des stades beaucoup plus élevés comme l'agoraphobie, comme je viens de parler, la dissociation. On se détache de nos émotions, on a des oublis, on fait des blocages. On ne perçoit plus nécessairement les choses de la même manière. Je dirais même que ça peut aller jusqu'à une déconnexion corporelle. Donc, quand on arrive à des moments plus intimes ou ne serait-ce qu'un câlin avec des amis, on devient comme un peu dissocié de notre corps, on ne ressent plus. C'est un automatisme, mais le sentiment derrière le geste n'y est plus. Ça amène bien entendu aussi des problèmes émotionnels. Colère envers ce qu'on a vécu, envers nous-mêmes, envers la vie. Ça peut s'expliquer de plein de façons. Bon, on s'en veut de pas. Pourquoi je me suis laissé faire? Pourquoi j'ai pas réagi? Pourquoi j'ai pas empêché ça? Envers la vie ou envers l'événement? Ben là, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ainsi de suite. Et s'ensuit, bien sûr, culpabilité, honte, parce que la majorité, je vais dire femmes, mais il y a des hommes aussi, qui vivent une situation comme ça, automatiquement se sentent coupables d'avoir fait ceci ou de ne pas avoir fait cela. Non. Enlevez-vous ça tout de suite de la tête. Le seul coupable en cas d'agression sexuelle, c'est l'agresseur. Peu importe le contexte, l'habillement, la situation qui a mené à ça, ce n'est jamais la victime qui est coupable. Je pense pas que quelqu'un va lever la main en disant « Hey, you, j'ai envie d'être agressé. » Non, c'est vraiment la personne qui décide de poser les gestes qui est coupable.
Et il y a un facteur aussi, Kathleen, avec, disons, le système légal tel qu'il est fait en ce moment. Souvent, les délais sont vraiment très, très longs. Donc, la personne qui a vécu assez en paix depuis quelques années et que là, il y a une cause médiatisée ou pas, c'est des années en arrière, là, des fois. Et là, ça redémarre quelque chose, en fait. Ça redéclenche quelque chose.
Effectivement, tu sais, quand je parlais d'éléments déclencheurs, ça, c'est un très bon exemple que tu nous donnes là, Sheila. Et pour la victime, et un procès comme ça qui est médiatisé, ça peut être une autre victime complètement à part qui avait tourné la page et que là, ça ranime des choses. Puis bon, exactement. Bien entendu, survivre à une agression à caractère sexuel, bien, ça a un impact sur nos relations. Autant intimes, familiales, amicales. Souvent, suite à une agression, on a de la misère à se reconnaître nous-mêmes. Donc, ça amène des problèmes de confiance en l'autre, que ce soit un ami, un membre de la famille, un conjoint, une conjointe, une nouvelle rencontre. Souvent, les nouvelles rencontres sont mises de côté parce qu'on a trop peur de s'investir. Peur de l'intimité, bien entendu. OK, tu ouvres la porte à une nouvelle personne dans ta vie parce qu'on a tous besoin d'amour, de tendresse. Mais de là à dire, est-ce que je suis prête à faire le pas pour avoir une intimité, une relation sexuelle? Pour certaines, c'est des gros, gros défis. Et malheureusement, ça amène beaucoup tout l'aspect de l'isolement social. On se coupe un peu, on se confie moins. Oups, j'irai pas dans tel endroit, il y a trop de gens, ça m'aide pas. On reste sur nos gardes, donc on minimise nos sorties. On devient un petit peu comme dans notre petite bulle, puis on a de la difficulté à en sortir. Je dirais même que suite à une agression, quand je dis que notre corps nous envoie des signaux, mais qu'on n'est pas toujours à l'écoute, bien, ça peut aller jusqu'à des conséquences physiques. On sait qu'il y en a qui viennent à développer des problèmes de santé, des troubles somatiques, des douleurs chroniques. T'sais, on dit souvent « Ah, oh, j'ai mal dans le cou, aux épaules. » Bien, c'est souvent associé à un poids qu'on porte psychologiquement. Troubles du sommeil, bien entendu, surtout si on a le syndrome du choc post-traumatique. Les cauchemars, les flashbacks, ces choses-là, c'est des choses qui sont très, très présentes. Quand on parle de santé, mais on parle aussi de santé sexuelle, donc problèmes de libido, dysfonction sexuelle, vaginisme, j'en passe, on pourrait en énumérer plusieurs. Tous ces petits facteurs-là, bien, ça amène des comportements à risque. Parce qu'en se dissociant, parfois, on a un jugement moins aiguisé sur « C'est-tu bon pour moi? C'est-tu moins bon? » Puis même parfois inconsciemment, on adopte un petit comportement peut-être autodestructeur. Donc, de là arrivent peut-être des abus de certaines substances, alcool, drogue, médication pour dormir, ainsi de suite. On essaie d'endormir la douleur qu'on a à l'intérieur, des choses comme ça. Quand je parle de comportement autodestructeur, on a déjà vu des femmes se rendre jusqu'à l'automutilation, tentative de suicide. C'est triste de voir qu'il y a encore des gens qui disent « Ben là, c'est fait, tourne la page. » C'est pas si simple que ça. Ouais. Et bien sûr, ben, dépendant de l'âge des personnes, ça peut amener des problématiques au travail, des problématiques à l'école, dans les cercles sociaux. Mais toujours important de dire que c'est pas uniforme à toutes les survivantes. Chacune le vit et le gère différemment. Puis dans cette optique-là, ben, c'est le rôle du CALACS, de dire « Hey, on est là, si vous avez besoin d'accompagnement, on a des trucs, des outils, on a des belles oreilles pour vous écouter, des épaules si vous voulez pleurer. » Des fois, juste de vider ce qu'on a à l'intérieur, ça fait un bien fou.
J'allais justement dire ça, s'il y a quelqu'un qui a vécu cette épreuve-là, peu importe si c'est dans les derniers jours, derniers mois, dernières années, même si ça fait 30 ans, peu importe, et qui se reconnaît dans ces symptômes-là, juste nous redonner votre adresse, coordonnées, comment on peut vous rejoindre.
Bien, on a toujours notre page Facebook qui est tout le temps ouverte, alors on est facile à rejoindre là, mais par téléphone, ça reste quand même le meilleur moyen, dans le 819-441-2111.
Et en terminant, je voulais nous rappeler une activité du Comité Femmes qui s'en vient à grands pas.
Bien oui, exactement. Fait partie aussi de notre mission au CALACS, de travailler un peu pour les droits des femmes. On avait le comité femmes qui nous aidait beaucoup, mais le comité femmes va disparaître. Donc, sa dernière activité se tiendra justement dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Nous, on invite toutes les femmes de la région le 7 mars au soir à la salle en haut du centre sportif Gino Hodgick. La thématique de la soirée, c'est « Encore en lutte ». Ça va être un petit... comment je pourrais dire ça? Un petit 5 à 7 allongé, petite bouchée, musique dansante, un petit verre de vin, on va échanger, on vient lâcher notre fou. Alors, gratuit pour vous, mesdames, on vous reçoit. C'est un peu un remplacement de l'ancienne activité qu'on nommait le déjeuner des femmes. Alors, vous êtes bienvenues, mesdames.
Merci beaucoup.